Bonjour, Laure Gounod, responsable de la prépa du DU à Médial et responsable des dispositifs préparation au concours et métiers des bibliothèques. Nous sommes aujourd'hui avec Juliette Vialon, qui est responsable adjointe de la Bibliothèque des sciences à Nancy au sein de la direction de la documentation. Je suis ravie d'accueillir Juliette aujourd'hui, lauréate du concours de conservateur. Bonjour Juliette.
Bonjour Laure.
Ça va?
Oui, ça va et toi?
Oui, merci beaucoup. Alors nous sommes là un petit moment ensemble. Tu as eu la gentillesse enfin en tout cas de permettre de répondre à certaines des questions. Donc je suis ravie. Est-ce que nous pouvons commencer?
Eh bien, tout à fait.
Allez, on y va. Donc, Juliette, est-ce que tu peux nous parler du parcours que tu as eu avant ce concours?
Oui, donc avant le concours, pour commencer mes études supérieures, j'ai fait une prépa. Donc j'ai fait 2 ans de prépa littéraire, Hippocagne-Cagnes à Montpellier. Et après ces 2 ans de prépa, donc moi mon objectif c'était pas forcément l'ENS, j'avais vraiment envie d'aller à l'université. Donc je suis sortie de prépa, j'ai continué à l'université Paul Valéry de Montpellier, deux cursus. Donc j'ai continué mon cursus de lettres, je suis directement entrée en L3 de lettres modernes, et j'ai voulu aussi me lancer dans un autre cursus qui est la psychologie. Donc je suis arrivée à la fac avec une L3, en commençant avec une L3 de lettres modernes et une L1 de psychologie, et après donc j'ai fait M1 lettres, L2 psycho, M2 lettres, L3 psycho. Donc je suis sortie de l'université avec une licence et un master de lettres modernes et une licence de psycho. Donc après ça, je me suis orientée en fait vers l'enseignement assez naturellement. Je n'avais pas envie de continuer mon parcours de psychologie puisque j'étais plus intéressée par le théorique, par la recherche. Et donc j'ai voulu continuer plutôt mon parcours de lettres. En me dirigeant vers l'agrégation. Donc, j'ai voulu préparer le concours de l'agrégation de lettres avec comme objectif l'enseignement, mais surtout, moi, ce qui m'intéressait, ça aurait été d'arriver à avoir un poste à l'université pour faire de la recherche. C'était vraiment mon objectif premier après mes études. Donc, j'ai commencé à préparer le concours de l'agrégation et je me suis vite rendu compte que même avec l'agrégation en poche, il n'était pas simple d'arriver ensuite à entrer à l'université et à faire de la recherche. Le plus facile aurait été d'obtenir un contrat doctoral, c'est pas tout le temps évident en lettres modernes. Et puis je me suis dit qu'avant d'en arriver là, il fallait peut-être passer par 5-10 ans d'enseignement et c'est pas vraiment ce que je recherchais. Donc j'ai eu un gros moment de doute. J'ai commencé à essayer de trouver d'autres pistes, d'autres voies. Et c'est une enseignante de grammaire, je me souviens, qui m'a conseillé donc le monde des bibliothèques, qui m'a orientée vers les bibliothèques. Et c'est vrai que c'était une voie que je n'avais même pas envisagée, en fait. Je n'y avais pas pensé de moi-même, aux bibliothèques. Donc je me suis renseignée. À l'époque, j'étais sur Grenoble. J'avais déjà changé, j'étais passée de Montpellier à Grenoble. Du coup, je m'étais rapprochée de Médiat. Donc Médiat, qui est comme Médial, mais c'était à Grenoble. Et j'ai pu parler sur place à un candidat qui venait de réussir le concours de conservateur, qui a pu me renseigner un petit peu sur ce que ça impliquait, à la fois le concours et les postes de conservateur. Et donc j'ai arrêté l'agrégation et l'année suivante, je me suis inscrite au concours de bibliothécaire et conservateur. Donc j'ai réussi le concours de bibliothécaire dès la première année.
D'accord.
Voilà. Le concours de conservateur, je ne l'ai pas eu. J'ai été première sur liste complémentaire cette même année, mais jamais appelée. Donc je suis restée sur liste complémentaire. Puis j'ai pris mon poste en Lorraine à la BU Sciences et Techniques. D'abord comme responsable des collections et des formations. J'ai voulu retenter pour la deuxième fois conservateur et je ne l'ai pas eu parce que j'étais trop préoccupée par ma prise de poste et je ne me suis pas assez lancée dans les révisions. Et donc c'est finalement cette année que j'ai repassé conservateur et que je l'ai réussi en externe.
D'accord, mais merci beaucoup pour ça. Et est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu as préparé ce concours?
Oui, alors, d'abord, avant tout, avant de préparer ce concours, je me suis vraiment renseignée sur ce qu'il impliquait. Notamment parce que j'avais une vision assez fantasmée des bibliothèques au début. Comme je pense beaucoup de monde, pour moi, les bibliothèques, c'était avant tout le patrimoine, la conservation du patrimoine,
D'accord.
les livres anciens. Donc, ça correspondait aussi avec mon envie de faire de la recherche. Ça correspondait avec mon parcours en lettres modernes, où moi je m'étais surtout intéressée à la Renaissance, au XVIe siècle. Donc pour moi, je voyais vraiment les bibliothèques comme des lieux de conservation des collections, du patrimoine. Et donc d'abord, il y a eu un gros travail pour apprendre ce que c'était maintenant que les
Les
bibliothèques.
bibliothèques.
Voilà, donc moi en plus je voulais passer le concours d'État, donc c'était aussi les bibliothèques universitaires, ce que ça impliquait vraiment. Donc j'ai pu parler avec des bibliothécaires, des conservateurs. J'ai découvert des missions que je ne connaissais pas vraiment, notamment la formation aux usagers, qui m'a tout de suite intéressée. Toutes les missions autour des services au public aussi. En fait, je n'envisageais pas tout ce qu'il pouvait y avoir derrière ce métier de bibliothécaire. Et donc, c'est aussi ça qui m'a poussée à préparer le concours. C'était pas tant ce que j'avais envisagé au début, hein, tout ce qui est recherche, patrimoine, mais finalement, c'est la polyvalence aussi du métier qui m'a encouragée à me lancer. Donc voilà, il y a eu déjà un travail d'échange avec les professionnels, essayer de trouver des stages. Après, comment j'ai préparé ce concours? Moi, ce que je conseille, c'est vraiment d'être organisée dès le début.
Oui.
Donc pour préparer le concours, j'ai lu tout de suite les rapports du jury,
Oui.
j'ai lu les sujets qui étaient tombés les années précédentes et j'ai essayé de découper tout le programme en thématiques. Donc j'ai tout découpé en thématiques, en sous-thématiques, tout ça pour pouvoir me faire un rétro-planning. Donc c'était, j'ai commencé quand? On va dire en septembre.
Oui.
Donc de septembre à mars-avril, donc jusqu'aux écrits, je m'étais fait un gros rétro-planning où je devais normalement explorer toutes les thématiques et les sous-thématiques que j'avais identifiées pour le concours. Après, donc pour chaque thématique, j'essayais de réunir un grand nombre de définitions, de fiches de lecture, d'exemples. Donc ça pouvait être très varié. Et pour ça, j'allais chercher vraiment partout. C'est-à-dire que je pouvais passer par Wikipédia. Voilà, pas de honte à utiliser Wikipédia, c'est très très bien déjà pour avoir une vision un peu générale d'un sujet. Je
Oui.
passais aussi par Encyclopédie Universalis quand je voulais un petit
Oui.
peu plus creuser un sujet. J'ai beaucoup utilisé la plateforme Callisto, donc j'ai lu toutes les fiches de lecture qui étaient postées dessus, j'ai lu toutes les fiches thématiques aussi qu'on avait dessus. J'écoutais des podcasts, je regardais des documentaires Arte et je vais même l'avouer, j'ai aussi parfois utilisé ChatGPT
Oui.
qui pour lui demander de me parler d'un sujet, même si bon, faire très attention à ChatGPT, il faut toujours aller vérifier après coup, mais au moins il pouvait me donner aussi les grands points à savoir sur un sujet. Donc voilà, ça a été finalement une multitude de ressources qui s'ouvraient à moi. Et je suis allée piocher dans toutes ces ressources pour essayer d'avoir une base de définition et d'exemples sur toutes les thématiques que j'avais à étudier. Donc après, j'ai fait la synthèse de toutes ces données et je l'ai fait de deux façons différentes. Donc ça, c'est
Oui.
vraiment ma façon de travailler et d'apprendre. Après, il y a plein d'autres façons de faire. Donc moi, une première synthèse que j'ai faite de ces données, c'est sous forme de mind map. Donc de
D'accord.
cartes mentales avec des bulles. Donc j'avais plusieurs cartes mentales. Alors pour bibliothécaire, à l'époque, quand je l'ai passé, c'était surtout une grosse carte mentale sur la culture. Après, pour conservateur, là, j'avais fait une carte mentale sur l'histoire, une sur la science, sur l'évolution de la société, sur les institutions, sur l'art, sur la communication. Voilà, donc j'avais à chaque fois des mind maps. Alors moi, je les faisais sur le logiciel Prezi parce qu'on peut zoomer après sur les bulles. Donc ça me permettait d'écrire plein de petites choses dans mes bulles. Et donc on va prendre par exemple art. Donc j'avais, ou culture, prenons culture parce que ça peut aussi aller avec bibliothécaire. J'avais une bulle culture et autour j'avais plein de bulles qui se rattachaient à cette bulle centrale. Donc ça pouvait être sociologie de la culture, ça pouvait être aide aux artistes, conservation du patrimoine. Donc j'avais plein de bulles, voilà, tout autour. Puis plein de petites bulles après associées à aux bulles qui entouraient le mot culture. Donc j'avais un, voilà, ça me faisait une arborescence complète autour d'une thématique. Et chaque bulle après était remplie de définitions, d'exemples, de phrases ou de citations tirées de fiches de lecture ou de documentaires, de films. Enfin voilà, j'essayais d'être assez complète dans ces schémas. Et ça, enfin, en tout cas, moi, ça m'allait vraiment pour préparer la dissertation, puisque après, je me disais, peu importe le sujet sur lequel je vais tomber,
Oui.
je pouvais toujours pouvoir le rattacher à au moins une de mes bulles, et donc savoir quelles sont les bulles qu'il y a autour. Et en fait, avoir cette organisation, ça me permettait d'établir facilement des plans. Voilà. Donc ça, moi, je préférais ça plutôt que de faire des fiches de lecture classiques. Je préférais les mind maps. Et après, j'avais aussi donc toutes ces données-là qui étaient déjà dans mes mind maps, je les avais aussi mis sous forme de questions-réponses. Donc, je me faisais ce qu'on
D'accord.
appelle les flashcards. Donc, pour ça, il y a un logiciel aussi que j'utilisais qui s'appelle Anki, Anki. Donc, c'est un logiciel gratuit qui me permettait donc de rentrer plein de questions-réponses sur ordinateur et après de retrouver le logiciel sur mon téléphone. Et là, c'était bah, par exemple le matin en allant au travail, je m'auto-posais donc quelques questions sur toutes les thématiques. Donc ça, c'était aussi très pratique. Par contre, si on veut faire des flashcards, si on veut faire des questions-réponses, faut s'y prendre dès le début pour pouvoir ensuite les réviser. Ça ne sert à rien de les faire à la fin de la préparation, on n'aura pas le temps de se les repasser à soi-même. Donc voilà, j'avais mes mind maps, j'avais mes questions-réponses et après, j'ai aussi fait des revues de presse. Donc chaque mois, j'utilisais d'abord la revue de presse qui était sur la plateforme Callisto.
Callisto.
Voilà. Et puis après, je rajoutais un petit peu avec ce que moi, je pouvais trouver de mes propres lectures sur les médias. Et c'était des revues de presse. J'en avais à la fois une généraliste et une sur le monde professionnel, le monde des bibliothèques, le management. Et je les ai fait au fur et à mesure toute l'année. À la fin, j'ai pu tout relire, apprendre toutes ces données. Et voilà, c'est en ça vraiment qu'a consisté ma préparation au concours.
Alors, tu nous as déjà beaucoup parlé des liens avec la plateforme Callisto. Est-ce que tu peux nous dire quels ont été les apports du centre de formation médiale, notamment avec les tuteurs correcteurs, par rapport aux
Oui.
copies que tu as rendues?
Oui, alors oui, c'est vrai que j'ai déjà beaucoup parlé de Callisto. Pour ses fiches de lecture, pour les revues de presse, je voulais aussi signaler qu'il y a pas mal de podcasts qui sont proposés sur Callisto, enfin des liens vers des podcasts de
Oui.
France Culture ou d'autres sites. Ça, je trouve ça très, très intéressant. Après, sinon, oui, j'ai eu. Donc, quatre entraînements grâce à Amédia, à ma tutrice correctrice. Donc, quatre entraînements dissertation et quatre entraînements notes de synthèse. Et ça m'a vraiment semblé indispensable, les entraînements. Donc, parfois, au début, ça peut-être être un peu impressionnant, mais je conseille vraiment de jouer le jeu dès le début, même si on se retrouve chez soi. Face à un sujet qui ne nous inspire pas du tout, bah c'est pas grave, on se lance quand même. Moi, j'ai décidé vraiment de jouer le jeu aussi au niveau du temps. J'ai décidé vraiment de me mettre en condition dès le premier entraînement, quitte à ce que ce soit une mauvaise copie, c'est pas grave. Après, on peut toujours s'améliorer, les entraînements sont faits pour ça. Et voilà, moi, j'ai quand même eu une super tutrice correctrice. Qui a été là pour moi, qui m'a aidée, qui à chaque fois fait la correction avec moi de mes devoirs, qui n'a pas hésité à me dire là où je pouvais avoir des lacunes, là où bah, parfois c'était pas encore au point, voire c'était mauvais. Mais c'est pas grave, faut les accepter aussi, ces critiques, ces remises en question. Ça nous permet après de progresser. Et moi, je l'ai tout de suite vu la progression au fur et à mesure des entraînements. mes dernières copies n'avaient rien à voir avec mes premières copies. Et ça permet aussi de gagner en confiance et de se dire qu'on arrive au concours avec quand même des bagages derrière soi, avec quand même une formation de qualité et pouvoir aborder le concours un peu plus sereinement.
Merci. Et puis dans le cadre donc Média qui fait partie du réseau des CRFCB, comment est-ce que tu as trouvé la proposition d'oral blanc que tu as eue?
Alors, les oraux blancs, je dirais que c'est comme les entraînements à l'écrit, c'est indispensable. Pour moi, c'était inenvisageable d'arriver aux oraux de conservateur sans avoir eu des entraînements avant. Donc, j'ai eu un premier entraînement donc oraux blancs qui était assez tôt, donc juste après les résultats des écrits.
Oui.
Et ça a été une manière un peu de me remettre dans le bain. Ça faisait longtemps que je n'avais pas passé d'oraux blancs. Donc là aussi, il faut y aller. On se dit que ça va pas être parfait, on va répondre peut-être qu'à la moitié, voire un tiers des questions qui nous seront posées par les collègues. C'est pas grave, on y va quand même. Et ça permet aussi, je trouve, de beaucoup dédramatiser les oraux finaux. Puisque c'est quand même un exercice qui n'est pas facile, et si jamais on ne sait pas à quoi s'attendre, on risque d'être très facilement déstabilisé en fait face au jury. Donc après, ce que je conseille aussi aux candidats, c'est de ne pas hésiter à redemander des oraux blancs, aller voir des collègues aussi pour avoir des entraînements. Plus on en fait et moi, on sera stressé le jour même de l'épreuve.
D'accord, merci. Et est-ce que tu peux nous parler aussi peut-être des épreuves orales, notamment l'épreuve de langue?
Oui, alors l'épreuve de langue, elle m'a posé un peu. Enfin, ça a été un peu difficile, surtout la première année, cette épreuve de langue. Donc, conservateur, je l'ai passé 3 fois. La première année, j'avais bien réussi toutes les épreuves, sauf l'épreuve de langue, puisque j'avais choisi de prendre latin.
D'accord.
Je ne connaissais pas encore vraiment le concours, enfin c'était la première année, donc on va dire c'était un petit peu un test. Et je m'étais dit, je vais prendre latin parce qu'il y a sûrement peu de candidats qui prennent latin, donc je vais facilement me démarquer. Résultat, non. À conservateur, on a quand même plusieurs candidats chaque année qui choisissent de prendre latin et qui sont des latinistes bien installés. Voilà, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont les bases, ils connaissent bien, ils sont habitués à faire des traductions. Et donc, je me suis, on va le dire, je me suis totalement plantée à cette première épreuve de latin et c'est ce qui m'a fait vraiment, je pense, rater le concours. Donc, je suis passée vraiment à ça d'être sur la liste d'admission. Donc, les années suivantes, j'ai décidé d'abandonner le latin. Je n'avais pas non plus envie de prendre anglais parce qu'il y a énormément de candidats en anglais et je savais que là, ça serait comme le latin, je ne pourrais pas me distinguer. Donc j'ai choisi l'espagnol. J'ai choisi l'espagnol parce que j'en avais déjà fait au collège et au lycée. J'étais en section internationale d'espagnol. Donc ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé, mais je savais que je pouvais retrouver les bases. Donc au début de l'année, j'ai décidé vraiment de reprendre les bases des bases, donc reprendre un petit peu de vocabulaire, lire des listes de vocabulaire en espagnol, reprendre aussi un petit peu la conjugaison parce que ça, c'était pas mon fort. Et en fait, très vite, je me suis dit que ça ne servait à rien de réviser comme ça des pages de cours de conjugaison, quoi. Et j'ai décidé d'écouter des podcasts en espagnol. Et moi, c'est ce qui m'a le plus aidé pour l'épreuve de langue, c'est écouter des podcasts. Alors, j'en écoutais pas énormément, hein, parce que ma priorité avant tout, c'était l'écrit. Les oraux, je m'y suis mise un petit peu plus tard. Mais donc, entre les résultats de l'écrit et les épreuves orales, j'ai écouté beaucoup de podcasts. Et j'ai eu la chance d'avoir une amie qui parle espagnol, qui est bilingue. Et donc, je n'ai parlé que espagnol avec elle pendant 1 ou 2 mois. Et ça, voilà, ça m'a permis de me remettre dans le bain, de baigner un petit peu dans la langue, ce qui est quand même important. Et après, l'épreuve, c'est assez bien passé. Donc, l'épreuve, c'était à la fois une traduction, un très léger commentaire et puis des questions-réponses avec le jury. Et c'était pas parfait. Je pense que j'ai fait beaucoup d'erreurs à l'oral, mais ça a quand même suffi à me donner une note qui m'a permis d'être admissible, admise.
Merci. Et est-ce que tu peux aussi nous parler des deux épreuves orales, culture générale et motivation professionnelle?
Oui, alors pour ces deux épreuves, le fonctionnement est un peu similaire. Donc il s'agit d'un commentaire, souvent d'articles de presse, mais ça peut aussi être de. Il y a 2 ans, j'étais tombée sur par exemple une page d'encyclopédie. Donc ça peut être assez varié ce qui peut nous être proposé. Et donc un commentaire d'une demi-heure, puis après face au jury, 10 minutes donc à leur expliquer notre commentaire et 20 minutes de questions. Donc pour culture générale, alors c'était l'oral qui m'angoissait le plus parce qu'on n'est jamais totalement prêt. Au niveau de la culture générale, on sait qu'on a toujours des lacunes. En tout cas, moi, je savais que j'avais encore des lacunes au moment même de l'oral. Et l'essentiel, c'est bon, déjà la préparation, hein, essayer d'identifier ces lacunes, essayer d'avoir quand même une bonne vision de toutes les thématiques qui peuvent être abordées avec le jury. Mais après, au moment de l'oral, ça a vraiment été de se dire, on y est, on est là, on va jusqu'au bout. Et c'est pas grave si jamais c'est pas parfait, c'est pas grave si le sujet ne nous parle pas. Moi, ça a été le cas, le sujet ne m'a absolument pas parlé quand je suis tombée dessus en culture générale. Il faut pas paniquer, il faut pas se laisser déstabiliser, il faut avoir confiance en soi, préparer un commentaire, même si on sait qu'il n'est pas parfait, et aller devant le jury avec toute la confiance qu'on peut avoir en soi. Et pour moi, c'est vraiment ça qui a fait la différence avec les années précédentes en culture générale. Bon, peut-être que j'étais un peu mieux préparée, mais j'avais toujours autant de lacunes, hein. Mais j'ai essayé de les écarter, j'ai essayé de rebondir le mieux possible sur les questions, d'orienter un minimum vers des sujets sur lesquels j'étais un peu plus à l'aise et de montrer au jury que même si on ne connaît pas tout, même s'il y a des fois, inévitablement, on va répondre « je ne sais pas », c'est pas grave, on a aussi d'autres forces et on se bat jusqu'au bout. Donc pour moi, ça a été vraiment ça la culture générale, c'était le plus compliqué. Après motivation professionnelle, ça s'est très bien passé en motivation professionnelle et là, le conseil que je donnerais, c'est vraiment essayer de vous vendre, c'est-à-dire essayer de montrer au jury que vous avez les compétences nécessaires, que vous êtes prêt à y aller, que ça vous fait envie, que ça vous fait plaisir d'avoir ce concours, que vous savez très bien ce qui vous attend après et c'est pas un problème pour vous, au contraire, ça serait une chance pour vous d'y accéder. Si jamais vous travaillez déjà en bibliothèque, essayez de donner des exemples sur ce qui se passe dans le réseau de vos BU, ce que vous avez fait, vos propres projets, vos propres idées. J'ai énormément, moi, joué là-dessus. Dès que j'avais une question, j'essayais de le rattacher à quelque chose qui se faisait à l'Université de Lorraine, dans d'autres BU aussi, pour montrer qu'on a aussi une curiosité professionnelle, mais aussi mes propres projets, ce que je pouvais faire en tant que professionnelle. Après, si vous ne travaillez pas en bibliothèque, c'est pas non plus pénalisant, puisque la première fois que j'ai passé conservateur, la toute première année, je n'avais jamais travaillé en bibliothèque. J'étais en stage, donc ça faisait une semaine que j'étais en stage dans une bibliothèque universitaire à Montpellier. Avant ça, je n'avais jamais rien fait en bibliothèque. Mais en fait, pendant cette semaine de stage, j'en ai profité pour parler à des professionnels. Et donc rien que ça, en fait, rien que d'échanger avec des professionnels sur place, j'ai réussi en fait à me former une vision du métier qui devait être assez juste. Et j'ai réussi à trouver avec mon parcours, même d'étudiante, parce que j'avais pas énormément d'autres choses à côté, rien qu'avec mon parcours d'étudiante, j'ai essayé de trouver des compétences que je pouvais avoir et qui pouvaient être utiles au métier de conservateur.
Merci beaucoup, Juliette. En forme un peu de conclusion, quels seraient les conseils que tu pourrais formuler aux futurs stagiaires?
Alors, j'ai trois conseils vraiment qui m'ont beaucoup aidée, moi, quand j'ai passé le concours. Premier conseil, c'est d'aller à l'essentiel, parce qu'on n'a pas énormément de temps devant nous. Le concours de bibliothécaire arrive très vite, celui de conservateur aussi. Les mois passent à une vitesse folle, donc il faut aller à l'essentiel, faire au mieux. Donc pour ça, il faut être organisé, soyez organisé dès le début. Faites-vous tout de suite un planning, un rétro-planning, identifiez tout de suite vos lacunes. Et après, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait, préférer des ressources qui sont rapides à lire et à assimiler. Donc ça sera, pour moi, ça a toujours été plus efficace d'écouter une petite vidéo sur YouTube du Monde ou de regarder un documentaire de 20 minutes sur Arte plutôt que de lire un livre de 500 pages sur un sujet, alors que de toute façon, on ne demandera jamais de connaître, d'aller vraiment dans la technique sur chaque sujet. Donc aller à l'essentiel. Deuxième conseil, ça serait d'avoir de la curiosité intellectuelle et professionnelle. Donc ça, c'est, vous le verrez quand vous serez en train de réviser. Souvent, vous allez étudier un sujet et puis rien que sur Wikipédia, par exemple, vous allez passer d'une page à une autre. Tiens, lui, je ne le connais pas, je vais aller voir qui c'est. Tiens, cet auteur, je ne le connais pas. Tiens, cette théorie, j'en avais jamais entendu parler. Donc, ayez la curiosité intellectuelle dans vos révisions. En dehors de vos révisions aussi, profitez de cette année pour aller voir des expos, pour aller voir des concerts, pour aller voir des films. À condition encore que ça ne vous prenne pas tout votre temps. On réfléchit tout le temps à aller à l'essentiel. Et avoir une curiosité professionnelle, savoir ce qui se fait dans d'autres BU, savoir ce que font vos collègues autour de vous. Ça peut être très pratique pour avoir des exemples. Et puis troisième et dernier conseil, celui-là, je pense qu'il est, c'est peut-être le plus important, c'est se faire confiance. Donc n'ayez pas peur de ces concours qui sont très sélectifs. J'aurais jamais imaginé la première année que j'aurais bibliothécaire. J'aurais jamais imaginé cette année que j'allais avoir conservateur. À chaque fois, on voit les chiffres, ça fait peur, mais vous êtes capable de le faire si jamais vous travaillez bien, si jamais vous avez confiance en vous. Vous pouvez y arriver. Vous aurez toujours des lacunes, vous vous sentirez jamais prêt à ces concours. On se dit tout le temps, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu réviser ça à la place de ça, j'aurais pu passer plus de temps à réviser que à me reposer. Mais c'est pas grave, on y arrive quand même. Tous les candidats sont dans le même cas que vous. Et se faire confiance, c'est aussi savoir s'écouter. Donc c'est aussi savoir s'arrêter quand on juge qu'on est suffisamment prêt et savoir prendre un petit peu de temps pour soi, se reposer, faire du sport, faire ce que vous aimez. Donc essayez d'avoir aussi une bonne hygiène de vie et être dans un bon état d'esprit pour le jour où vous arriverez aux épreuves.
Ben, merci beaucoup, Juliette, pour ce témoignage. Donc, je vais, voilà, je te souhaite une bonne installation à Lyon, parce que après,
Merci
c'est
beaucoup.
une fois qu'il y a une réussite au concours pour le concours de conservateur, c'est donc le départ, hein,
Et oui,
pour
le
Lyon,
départ à Lyon, oui, pour
l'ENSIB,
l'ENSIB.
et c'est donc la rentrée est prévue en janvier.
C'est ça, le 6 janvier, j'arrive à l'ANSIB.
Voilà, ben, merci beaucoup en tous les cas pour ce témoignage qui va aider grandement les futurs préparationnaires du centre Amédial ou des CRFCB, puisque nous sommes 12 CRFCB sur le territoire. Et vraiment, merci beaucoup pour ce témoignage.
Eh ben, merci à toi, Laure, et puis bon courage à tous les candidats.
Merci.